Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Collimateur, le podcast de l'IRSEM consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui c'est un épisode qui a un format court un peu particulier. C'est entre un épisode normal, peut-être un tête chercheuse, enfin bon, il n'y a pas encore vraiment de format pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Bon, un épisode qui est dans tous les cas consacré comme souvent en ce moment à la guerre en Ukraine et où on va essayer de traiter d'un aspect qui est très particulier de la guerre, qui n'est pas facile à appréhender ou en tout cas qui n'était pas dans les premiers temps du conflit, à savoir sa dimension cyber et informatique. Alors pour en parler, j'ai donc le plaisir d'être en ligne avec Louis Pétignot, géographe et chercheur au centre Géode, c'est-à-dire géopolitique de la datasphère de Paris 8, spécialiste notamment des couches basses et intermédiaires de l'Internet, c'est-à-dire des nœuds, des réseaux, des routages de données. Bref, des dimensions très matérielles, parfois un peu sous le radar et pourtant complètement incontournables de l'Internet, notamment en Ukraine, ce qui était le sujet de votre thèse, très récemment soutenue, donc félicitations, et puis bonjour, bienvenue dans le Collimateur.
Merci et bonjour.
Alors, je le disais en préambule, c'est quand même un peu un point d'interrogation. Enfin, en tout cas, ça l'était pendant un moment, cette dimension cyber et informatique de la guerre. Parce qu'on avait l'impression, dans les premiers jours ou les premières semaines, qu'elle n'avait pas eu lieu, que c'était un angle manquant du conflit. On en parlait encore cette semaine avec Olivier Kempf, qui disait que c'était une partie du conflit absente. Alors, c'était soit ça, soit peut-être qu'on ne se rendait pas bien compte de ce qui se passait, ou peut-être qu'il y avait des attaques, mais qui étaient discrètes ou repoussées. Mais je veux dire qu'on a quand même de plus en plus d'informations qui sortent sur le sujet depuis quelques jours, et vous faites, Louis Pétignot, notamment un travail de veille de tout ça sur Twitter, qui est extrêmement utile. Alors, on va parler de ce qu'on sait, mais il faut peut-être commencer par donner un peu de contexte, parce qu'une des raisons pour lesquelles on s'étonnait de cette absence, c'est que, au contraire, bon, le sens commun, ce à quoi on s'attendait largement en tout cas, c'est à ce que les Russes soient très en pointe sur, appelons ça des attaques mixtes, c'est-à-dire sur le fait de soutenir une attaque physique, cinétique, une opération militaire, par des opérations sur les moyens de communication et sur l'Internet aussi. Alors peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire rapidement ce qu'on sait, disons, de la doctrine ou des doctrines, ou en tout cas des conceptions russes du sujet, et donc aussi de ce à quoi on s'attendait en termes de versant informatique d'une attaque comme l'invasion russe qu'on a vue fin février en Ukraine.
Alors, je vais me permettre de revenir un tout petit peu sur le tout début d'abord, qui est qu'il ne s'était pas passé grand-chose, et je pense qu'il faut un petit peu aller dans l'entre-deux et dans la nuance, parce que de fait... on n'a pas vu ce qu'on aurait pu attendre, effectivement, ou ce qui a été attendu à un moment, qui est une massification des cyberattaques au moment de l'opération, du début de l'opération cinétique. Mais depuis début de l'année 2022, et puis si on reprend le temps long, mais on y reviendra peut-être après, depuis en fait 2014, voire avant, bien sûr, on a vu quand même une certaine quantité de cyberattaques et une multiplication de ces cyberattaques depuis 2022. Effectivement, par contre, il y a eu relativement peu de choses. Regarde ce qui était attendu. Pour ce qui est de ce qu'on pouvait attendre, je pense qu'il était très difficile de savoir à quoi on pouvait s'attendre. De toute évidence, les Ukrainiens eux-mêmes s'attendaient, déjà ne s'attendaient pas à la guerre, ce qui est quand même quelque chose, en tout cas de manière déclarative, ne s'attendaient pas à la guerre. D'ailleurs, pas mal d'instances occidentales ne s'y attendaient pas non plus. Au niveau cyber, en revanche, ça fait depuis longtemps, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les Ukrainiens affrontent des cyberattaques, doivent répondre à des cyberattaques, et pour cela, il y a quand même une préparation depuis 2014, au moins avec des coopérations, notamment avec l'OTAN, avec l'Union européenne, avec certains pays de l'OTAN, pour fortifier ça. Et des coopérations aussi ultérieures, mais pareil, on pourra peut-être y revenir. Au niveau de la doctrine, donc effectivement, on parle beaucoup, donc je pense que je vais tout de suite mettre les pieds dans le plat et éliminer, ou en tout cas écarter rapidement la fameuse doctrine Gerasimov, qui est du nom de ce général, enfin du chef d'état-major de l'armée russe, qui a publié en 2013 un article à ce sujet, en tout cas sur en tout cas comment lui il envisageait le futur de la guerre. Et qui en fait était d'ailleurs une évaluation de ce futur de la guerre à partir des pratiques occidentales, notamment en Libye. Et on
Pour
a.
ceux que ça intéresse, je veux dire qu'on avait fait un épisode des Têtes chercheuses avec Emmanuel Dreyfus, justement sur cette question de la doctrine Gerasimov, et où on voyait que bon, fallait le voir de très loin pour dire qu'il y avait une doctrine Gerasimov particulièrement originale. Cela étant, il est vrai que les Russes conçoivent depuis longtemps une intégration de la dimension informatique et numérique à leurs actions, mais ça, c'est le cas de beaucoup de monde. Mais alors, qu'est-ce qui est spécifique chez les Russes? Comment est-ce qu'ils le traitaient, disons?
Alors justement, ce qui est intéressant, c'est de. Moi, enfin, je me permets de citer un chercheur que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle Michael Kaufman, qui a qui en ce moment analyse la stratégie russe en Ukraine, et qui dont le dont, le, dont un des chevaux de bataille est de dire justement que les Russes font en fait à peu près comme les autres. Ce qui est en tout cas sur cette idée de la guerre hybride, qui est une multiplication des moyens de la guerre ou de la guerre par d'autres moyens, pour citer un personnage connu, et qu'on serait relativement en peine de trouver une spécificité à la pratique russe. Alors évidemment, là on parle de guerre hybride, sur le domaine cyber, il y a quand même des choses, effectivement, il y a notamment le recours toujours un peu difficile à évaluer, à des groupes privés ou à des groupes proches ou soutenus par les instances russes, que sont notamment le FSB, le GRU et le SVR, donc les services de renseignement extérieur, intérieur et militaire. Donc on connaît effectivement cette pratique du cyber et de l'informationnel, bien sûr, mais je ne suis pas sûr qu'on pourrait parler d'une pratique extrêmement doctrinale du cyber en matière d'opération.
Alors peut-être appuyons-nous en tout cas sur le passé ou sur le passif, c'est-à-dire que bon, si on prend les dernières grandes opérations, enfin les dernières guerres menées par la Russie, alors on peut penser à la Géorgie en 2008, on peut penser à l'Ukraine en 2014, peut-être penser, je ne sais pas si ça s'applique aussi à la Syrie, qu'est-ce qu'on les a vus faire à ces moments-là, dans ce domaine-là?
Alors effectivement, il y a des précédents. Alors la guerre en Géorgie est un exemple assez intéressant dans la mesure où le réseau géorgien n'était pas vraiment armé contre ce type d'opération, où on a vu effectivement une multiplication des attaques, diverses et variées d'ailleurs, donc des défacements. Donc on a vu ces images de sites gouvernementaux ukrainiens, géorgiens, pardon, montrer des comparaisons entre le président de l'époque, Mikhail Saakachvili, et Hitler, directement.
Donc ils
On a
attaquaient les
vu des
sites
attaques.
internet, quoi. C'est vraiment les
Oui,
sites
voilà, c'est ça.
gouvernementaux et pour remplacer les pages d'accueil. Mais bon, ça c'est vraiment un peu la surface en
Alors, c'est
quelque sorte.
anecdotique. Oui. Après, oui, il y a quand même eu des dénis de service, donc pour faire tomber des sites internet directement aussi. Et il y a eu des attaques qui permettaient, en fait, alors c'est du domaine un peu technique aussi, mais des attaques BGP, à travers ce protocole qui permet en fait l'interconnexion des réseaux internet à travers le monde, et qui a permis aussi de faire tomber certaines parties du réseau géorgien. Mais là, on se situe dans des attaques assez, finalement, pas inefficaces, mais dans une certaine mesure anecdotiques, dont l'intérêt opérationnel peut être questionné quand même. Et pour l'Ukraine en 2014, de la même manière, il y a eu des cyberattaques dès le début de la révolution, en fait, à l'encontre des téléphones des gouvernants, à l'encontre des téléphones même des manifestants. Là aussi, on n'était pas encore dans vraiment l'opérationnel ou dans le conflit ouvert avec l'Ukraine. Par contre, en Crimée, il y a eu quand même de la prise. Alors là, c'est quelque chose de très infrastructurel. Il y a eu la prise de possession, en fait, des réseaux locaux. Mais là aussi, on peut se questionner sur l'intérêt opérationnel, puisque pendant encore un an, ou même quelques années, si je m'abuse, ça reste l'Ukraine qui a fourni de l'Internet à la Crimée. Et donc, c'est quelque chose de très ponctuel, qui a peut-être servi à un moment clé, mais qui a servi, à mon avis, de manière très, très anecdotique, dans la mesure où les forces spéciales sont bien plus efficaces que la coupure d'Internet dans un territoire comme la Crimée, par exemple.
Oui, mais alors si on réfléchit Parce que peut-être qu'on aurait un peu dû commencer par là, mais à quoi ça peut ressembler, disons, une opération combinée comme ça? C'est-à-dire, l'idée, c'est à la fois on attaque un territoire et en même temps on coupe Internet, ce qui diminue les capacités des défenseurs à communiquer, ce qui peut provoquer de la panique aussi. Ou est-ce que ça va encore plus loin? Même d'un point de vue théorique, ce que ça pourrait être une attaque hybride, mettons des très gros guillemets là-dessus.
Alors en pratique, il y a un des journalistes qui était de la société de presse qui était à Mariupol récemment, Mariupol où la communication a été coupée, qui théorisait, enfin qui proposait deux hypothèses que je trouvais assez intéressantes, qui est la première évidemment de semer le chaos dans le cas d'une déconnexion d'Internet, hein, pour le coup, puisque les télécoms sont coupés à Mariupol désormais. Et la deuxième, c'est l'impunité des soldats sur place. Alors peut-être moins que l'impunité, je dirais la liberté de faire un peu ce qu'on veut, effectivement, c'est-à-dire à la fois. Enfin, l'impunité suggère quand même de prêter des intentions à l'agresseur. Le fait de tout simplement pouvoir faire ce qu'on veut, c'est-à-dire de manière opérationnelle, actionner n'importe quel levier, je pense que c'est quelque chose qui, effectivement, peut être réel.
C'est-à-dire qu'il n'y ait pas des gens qui filment des soldats en train de faire des crimes de guerre ou en tout cas de faire des violences ou des exactions et qu'on puisse pas diffuser ça en direct sur Internet.
Voilà,
Ça,
exactement.
ouais, c'est l'idée que ça laisse un peu plus de marge de manœuvre aux soldats sur place.
Oui, voilà. Après, ça dépend, je pense, des cas. Mais effectivement, à Mariupol, où clairement l'objectif semble être, en tout cas, parce que je ne vais pas aller trop loin, de à peu près raser la ville, de toute évidence, oui, ça permet de pouvoir le faire en relative impunité et éventuellement de ne pas avoir une réaction occidentale un peu plus forte encore. Bon. Le fait est que ça n'a pas fonctionné complètement, puisque le récit de ces journalistes est particulièrement éclairant sur la manière dont on peut quand même, dans une certaine mesure, accéder à Internet jusqu'à un certain point. Mais depuis qu'ils sont partis, parce qu'ils ont été évacués, effectivement, on a un blackout complet sur une ville comme Mariupol, quelque chose qui pourrait être répété. On a vu d'autres exemples à Kharkiv, dans le plus au nord, de ce genre de choses, de coupures d'électricité, alors soit direct de pardon. De communication, soit par la communication elle-même, soit par de toute façon le réseau électrique. Et là aussi, on peut se questionner sur à terme si une coupure se produit à long terme, ce qui peut se passer sur place par enfin, en tout cas, les actions des armées russes.
Alors, si on revient un peu en arrière, donc là, il y a le cas de Mariupol, vous venez de parler aussi rapidement de Kharkiv. Reprenons fin février, qu'est-ce qu'on a vu? Alors, on a vu des Russes entrer sur le territoire ukrainien, mais dans la dimension numérique, informatique, de l'Internet, des réseaux au sens plus large, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui s'est pas passé, si tant est, parce qu'on sait que documenter tout ça, c'est aussi problématique, enfin, c'est très difficile. Notamment parce que c'est pas forcément le centre d'attention au tout début. Quand il y a des chars qui débarquent, qui passent la frontière, généralement on a tendance à se concentrer dessus, et c'est compréhensible. Donc qu'est-ce qu'on a vu dans cette sphère numérique et qu'est-ce qu'on n'a pas vu?
Alors, on a vu à la fois pas mal de choses, c'est-à-dire une multiplication des événements et des déclarations aussi, ce qui est assez important, c'est-à-dire que, alors, pour prendre un exemple, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses en même temps, et à la fois peu de choses très, très concrètes ou très massives, c'est-à-dire on a vu quand même, alors comme je disais depuis déjà janvier, donc des cyberattaques de type Wiper, donc qui ont pour vocation d'effacer des données d'un ordinateur ou d'un serveur.
Mais
On
de
a vu
quel
des
type
attaques.
d'ordinateur ou de serveur, c'est quoi les cibles? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est des cibles? On imagine que les cibles militaires sont bien protégées par rapport à ça. Donc, quelles peuvent être le genre de cible de proie pour ces attaques-là?
Alors, en l'occurrence, c'était des services gouvernementaux. Plus précisément, j'avoue que je ne me rappelle plus. Et puis, c'est une attaque qui a ricoché aussi sur des entreprises qui aidaient aussi les services gouvernementaux basés en Lituanie, me semble-t-il. Donc on a vu ce genre d'attaque un peu concrète, en fait, un peu voilà, dont on pourrait se dire qu'elles auraient un impact, mais ça reste, encore une fois, il faut remettre effectivement dans la balance le fait que des chars arrivent. Donc effectivement, l'impact est relativement limité. Pour prendre un point de vue plus général, l'impact des cyberattaques dans une situation opérationnelle reste extrêmement limité par rapport à ce qu'on constate à côté, effectivement. Donc on a vu quand même ce genre de choses. On a vu effectivement beaucoup de déclarations, donc pas mal de groupes de hackers se positionner, donc les Anonymous du côté ukrainien, et avec beaucoup de déclaratifs aussi, parfois faux, parfois vrais. Il est là aussi effectivement, comme vous le disiez, il est assez difficile à ce stade-là de pouvoir confirmer ou infirmer complètement toutes les déclarations. Le groupe Conti, un fameux groupe aussi de hackers, s'est positionné lui du côté russe. Voilà, il y a des sites qui recensent comme ça tous les groupes et leur positionnement, donc il y en a beaucoup, donc je ne vais pas faire la liste, mais on a vu ce genre de choses. Et puis effectivement, on a vu relativement, au fur et à mesure de la guerre, peu de cyberattaques toutes vraiment importantes, je dirais, ou en tout cas avec des effets importants. Mais là, effectivement, les théoriciens de ce type de pratique expliquent la plupart du temps, alors pas tous bien sûr, mais une bonne partie d'entre eux expliquent qu'effectivement, dans une situation pareille, les cyberattaques ont un impact trop limité, en particulier au vu du coût de la préparation, du temps de préparation que ça demande. Donc il est pas forcément anormal de voir ça. On a vu aussi des initiatives assez plus originales. Donc on en parle beaucoup maintenant, mais la IT Army d'Ukraine, donc qui était cette initiative du gouvernement ukrainien lui-même de rassembler les hackers ukrainiens. Donc une initiative vraiment comme on pourrait dire, de temps de guerre, hein, de rassembler des groupes illégaux a priori pour combattre du côté de Kiev. Là aussi, pas mal de déclaratifs. Il y a eu des publications de cibles faites par directement, je crois même le ministre lui-même des télécommunications. Mais des effets vraiment massifs. Bon, il y a des choses qui paraissent, hein, sur des fuites de bases de données de l'autorité russe des télécoms, de l'armée russe elle-même, etc. Mais pareil, il faudra attendre un peu pour pouvoir authentifier tout ça et faire un peu le point après que la poussière soit retombée assez littéralement.
Alors ça, c'est la partie des cyberattaques, donc des attaques proprement informatiques. Mais vous êtes, je l'ai dit en introduction, vous êtes un spécialiste aussi des réseaux et du côté très hardware. Enfin, c'est-à-dire tout ça, ça passe par des câbles. Enfin, il y a une dimension très physique et matérielle. Et on aurait pu imaginer que les Russes essayent de couper le réseau téléphonique ou le réseau Internet, mais par des bombardements, par des attaques tout à fait cinétiques sur ces nœuds de communication. Ça, est-ce que ça a eu lieu? Dans quelle mesure est-ce que ça a eu lieu et quel effet ça a pu avoir si ça a eu lieu?
Alors, bah, effectivement, comme je disais, à Mariupol, par exemple, ça a eu lieu dans plusieurs endroits d'Ukraine, en tout cas des baisses de connectivité.
Parce que rappelons que la beauté d'Internet, c'est que c'est très distribué, c'est-à-dire les paquets de données peuvent passer par plein d'endroits différents. Donc tout ça pour dire qu'il suffit pas de, il suffit pas de taper une tour téléphone pour couper une partie du territoire d'Internet. C'est plus compliqué. Enfin, ça demande beaucoup plus d'attaques et beaucoup plus d'encerclement en quelque sorte.
Alors oui et non, puisque évidemment ça dépend des situations de chaque pays en fait ou de chaque territoire. En l'occurrence, l'Ukraine a un réseau extrêmement distribué avec un fourmillement d'opérateurs divers et variés, beaucoup d'infrastructures bien réparties sur le territoire. Donc c'est un réseau a priori déjà très résilient. Dans des cas comme plus précis, donc comme Mariupol, effectivement, là il est difficile en fait de proposer une intentionnalité de l'armée russe elle-même parce que dans le cas encore une fois d'une multiplication des bombardements sur une zone entière, il est probable que possible en tout cas que ce soit un effet collatéral tout simplement et pas quelque chose de visé. Il faudra aussi voir plus tard, mais je vois qu'il y a des cartes qui paraissent de plus en plus des bombardements. Il faudrait voir s'il y a un ciblage des infrastructures. Par contre, effectivement, globalement, on a peu vu ça, donc on a vu quand même ce bombardement de la tour de communication à Kiev, qui a beaucoup fait parler aussi, mais effectivement, comme vous le disiez, il ne suffit pas de bombarder une tour pour que tout soit coupé. Et puis effectivement, il ne semble pas que la Russie cible particulièrement les infrastructures. Donc il y a plusieurs hypothèses qui sont proposées par les spécialistes, notamment des télécoms, pour expliquer ça. Et par les spécialistes de l'opérationnel aussi dans ce genre de cadre et de thématique, disons. La première, c'est d'une part, c'est l'écoute et le renseignement, tout simplement, c'est-à-dire que laisser les communications ouvertes, si on peut les pénétrer correctement, ce qui n'est pas impossible, sachant qu'il y a des similitudes entre les matériels utilisés par l'armée ukrainienne et l'armée russe. Il y a une infrastructure commune depuis la fin de l'URSS, donc voilà, il y a quand même une connaissance par la Russie des infrastructures ukrainiennes.
C'est-à-dire que potentiellement, ils pourraient se brancher pour écouter ce qui se dit sur les réseaux téléphoniques et Internet ukrainiens, ce qui leur donnerait de l'information très, très valable, de qualité d'un point de vue même opérationnel pour diriger leurs opérations, quoi.
Voilà, exactement. Alors, dans quelle mesure, c'est une très bonne question qu'on laissera au service de renseignement russe. Mais il est assez probable que ce soit aussi, en tout cas, que ce soit une très bonne raison pour eux de ne pas les couper. La deuxième raison, c'est que ça permet probablement à l'armée russe de communiquer elle-même, puisque les réseaux ukrainiens avaient coupé, enfin, les opérateurs ukrainiens avaient bloqué les numéros russes notamment, mais aussi une partie des adresses IP de Russie. Donc bah, tout ça est un peu compliqué à localiser parfois, mais tout simplement ça pouvait empêcher certaines communications.
Ça, rappelons que ça a été une des grandes surprises, enfin bon, en tout cas un des grands points d'interrogation, c'est qu'il semblerait que les communications russes soient assez peu sécurisées dans l'ensemble à l'intérieur de cette opération, et que donc ils passent aussi beaucoup par des réseaux pas militaires, pas sécurisés pour plein de raisons, enfin, notamment qu'ils avaient. Enfin bon, on ne va pas entrer dans le détail des problèmes des communications russes parce qu'on ne connaît pas grand-chose, mais en tout cas, il semblerait qu'ils aient beaucoup communiqué par téléphone et par SMS, etc. Ce qui fait qu'évidemment, du coup, ils étaient dépendants des réseaux 3G, 4G, même téléphone ukrainien pour pouvoir communiquer au sein de l'armée russe, quoi.
Effectivement, oui, et visiblement, ils ont même récupéré des téléphones ukrainiens, en tout cas des cartes SIM ukrainiennes pour pouvoir communiquer. Et de fait, bah oui, ça permet aux Ukrainiens de pouvoir éventuellement récupérer. Donc effectivement, il y a pas mal de fuites des conversations opérationnelles russes. Et du coup, la troisième raison potentielle, et qui me paraît une des plus intéressantes, parce que en fait, je ne crois pas qu'il y ait de précédent dans ce contexte-là, c'est-à-dire vraiment d'une invasion qui a éventuellement pour vocation le contrôle d'un pays, qui est tout simplement de pouvoir conserver les infrastructures pour l'après-guerre. Alors, à savoir si la Russie veut envahir l'Ukraine intégralement, mais vu comment se déroule la situation, il est probable que le sud et l'est soient quand même, enfin que la Russie ait des plans pour ces régions-là de contrôle. Alors, de près ou de loin à voir, mais effectivement, maintenir l'infrastructure permettra effectivement d'opérer une communication de manière générale, d'une part, et puis auprès des populations, pour alors soit les Russes directement, soit les États ou les gouvernants fantoches qui prévoient potentiellement de mettre en place là-bas. Donc ça, c'est une question ouverte, mais qui permettra aussi de tout simplement d'opérer une communication d'après-guerre, tout simplement, pour à tout le moins essayer de s'assurer alors un contrôle de la population, j'irai pas jusque-là, mais une stabilisation d'une population qui, de toute évidence, n'a pas envie d'être en Russie.
Et si on essaie de faire un peu de prospective, en tout cas de se tourner vers l'avenir, est-ce qu'on sait. C'est-à-dire, donc on l'a dit, ça a été bon, relativement limité, en même temps, ce n'était pas le plus important quand il y avait une invasion très cinétique d'un pays, la dimension guerre électronique n'était pas le plus important, mais est-ce qu'on sait si. Enfin, par exemple, est-ce que ça pourrait être un nouveau front, par exemple avec des opérations qui stagnent un peu, des Russes qui avancent de moins en moins rapidement, en tout cas. C'est-à-dire, est-ce que, je veux dire comme ça, est-ce qu'on sait s'ils en ont gardé sous la pédale? Est-ce qu'on sait si, est-ce qu'on, étant donné les capacités russes, les capacités de guerre électronique et de guerre informatique russe, est-ce qu'on peut essayer de deviner est-ce qu'il n'y aurait pas là un moyen d'augmenter les investissements et d'essayer de faire la guerre d'une autre manière face à une opération militaire, en tout cas sur le terrain, qui piétine un peu en ce moment?
Alors, c'est une question effectivement assez ouverte. Évidemment, c'est pas impossible, mais je ne réponds pas à grand-chose en disant cela. Pareil, de la même manière, les théoriciens de ce genre d'opération insistent sur le fait que les cyberopérations, ça permet pas d'avoir de comment dire, d'obtenir des gains de long terme. Et dans ce sens-là, même s'il est possible que effectivement la Russie garde des choses sous le coude. Il est peu probable que ça puisse être mobilisé pour assurer des gains en Ukraine. Ce qui est possible en revanche, c'est que les cibles enfin, se déplacent de l'Ukraine vers l'Occident, puisqu'au fur et à mesure des sanctions, il n'est pas improbable que au moins les groupes de hackers et peut-être même les services russes eux-mêmes prévoient des choses pour pouvoir bah, tout simplement aller frapper, encore une fois, de manière, enfin, sous le seuil de l'attaque, aille frapper des entreprises occidentales, bon, comme ils l'ont déjà fait de toute façon, donc on sait qu'ils peuvent le faire, qu'ils savent le faire. Et c'est pour ça que du côté occidental, il y a beaucoup de directives qui viennent à la fois des gouvernants puis des entreprises de cybersécurité pour dire à toutes les entreprises, ça fait quelques mois que c'est qu'il y a beaucoup de communication là-dessus, de renforcer les défenses, de faire attention avec des guides pour savoir quoi faire en cas de cyberattaque, etc. Donc ça, c'est à mon avis, c'est plus du domaine du probable que des cyberattaques massives sur l'Ukraine. Mais là encore, la Russie est connue pour avoir fait des choses assez novatrices en Ukraine, notamment frapper les réseaux électriques. Mais là encore, ce qu'on a vu, c'est des gains extrêmement courts. D'ailleurs, pas de gains, on ne peut pas parler de gains, mais des effets extrêmement courts de quelques heures. Donc, est-ce que ça peut être intéressant ou est-ce qu'il y a une cyberattaque ou un format de cyberattaque qui pourrait permettre quelque chose vraiment de décisif ou même de vraiment un gain quelconque, ça reste plus difficile à établir.
Alors justement, qu'est-ce que ça nous apprend, si tant est que ça nous apprend quelque chose, tant à la fois sur le versant cyber et électronique des guerres de haute intensité, que peut-être sur la Russie, ces premières semaines de guerre en Ukraine? C'est-à-dire, est-ce que ça fait dégonfler le mythe de la guerre hybride, doctrine Gerasimov? Bon, ça, on a compris que de toute façon, il y avait bien besoin de le dégonfler un peu, ce mythe-là. Est-ce que ça relativise aussi l'importance plus généralement, quoi, de ce type d'opération confrontée à, bah, ce qu'on disait tout à l'heure, voilà, quand il y a des blindés qui entrent dans un pays, c'est quand même un problème un peu plus pressant qu'un serveur qui tombe en panne. Est-ce qu'il y a des premières leçons, des premières pistes en tout cas, à tirer de ce qu'on a vu depuis quelques semaines en Ukraine, à votre avis?
Bah, je pense que la première leçon, c'est que ça donne raison en fait à tous les théoriciens. Bon, on a vu des précédents enfin, comment dire, de cyberattaques pendant des conflits, mais ça donne raison aux théoriciens qui présageaient que on pouvait pas avoir de gains massifs pendant avec une puissance comme la Russie engagée dans une attaque pareille. L'absence d'usage de ce genre de pratique, pour l'instant en tout cas, parce qu'évidemment on verra de quoi l'avenir est fait, mais donne raison à ceux qui présageaient qu'on ne pouvait pas avoir de gains décisifs ou vraiment importants avec la guerre cyber ou la cyberguerre. Voilà. La deuxième chose, c'est je pense que les enseignements seront bien plus tardifs, mais par contre, ils seront sans doute déterminants pour la pensée de la guerre et du cyber dans cette guerre. Notamment parce qu'effectivement, les expériences de déconnexion ou de perte de connectivité évoluent en fait, puisque celles qui se déroulaient en 2008 n'ont rien à voir avec celles de maintenant, puisque la dépendance au réseau est bien différente chaque année qui passe en fait. Donc ça, ce sera aussi quelque chose à voir bah, avec les gens de Mariupol, avec les gens des autres zones de l'Ukraine qui ont perdu une connectivité.
C'est-à-dire
Je
de
pense qu'on
débriefer en quelque sorte de quelle importance ça a eu, à quel moment, de perdre le réseau et quels effets ça a donné sur le terrain à des moments
Voilà,
ponctuels.
exactement. Alors, une comparaison un peu, pas anecdotique, mais qui peut paraître étrange, c'est pendant la panne de Facebook d'il y a quelques mois, ou un an et quelques, la plupart du monde, enfin, dans le monde occidental, on s'est dit, ah oui, mais c'est pas Facebook qui tombe, et puis c'est pas très grave. Il y a plusieurs pays qui se basent uniquement sur Facebook pour faire toute une quantité d'opérations de la vie quotidienne, donc on n'imagine pas. Et encore une fois, nos pertes de connectivité dans l'Occident, en tout cas, elles sont extrêmement précises, elles sont extrêmement courtes. Que sait-on vraiment d'une situation où une ville entière perd sa connectivité pendant plusieurs jours? Je suis pas sûr qu'on le sache vraiment dans un contexte où l'Ukraine, alors pas toute la population ukrainienne, mais les jeunes en tout cas et les urbains aussi, sont très connectés et utilisent tous les outils que nous utilisons aussi. Ça, je pense que ça pourrait être un enseignement intéressant.
Merci beaucoup, Louis Pétignot.
Eh bien, merci à vous.
Donc, je rappelle que vous faites très régulièrement une veille, notamment sur Twitter, de ces sujets-là et de d'où en est cette guerre, si c'était informatique, en tout cas cette guerre numérique en Ukraine, ce versant numérique, disons, de la guerre en Ukraine. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.